C'est vrai, Denis a évoqué que c'est le dimanche de faveur de la mission contre la lèpre. C'est une mission qui fait un travail merveilleux. J'ai eu l'occasion de visiter un lieu où ils étaient, où ils sont à l'œuvre en Inde. Et ça a inspiré le sujet sans que je vais m'arrêter sur le travail de telle ou telle mission qui travaille parmi les lépreux, quoique je peux vous les recommander de tout cœur. Mais ça a inspiré le choix du sujet. Quand le Seigneur Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël du temps d'Élisée, et pourtant, c'est Naaman, le Syrien, qui sera guéri. Tout comme il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élie, et pourtant, c'était vers la veuve de Sarepta que Élie avait été envoyé. On dirait le monde à l'envers. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un passage qui est bien connu, Deux Rois, chapitre 5, qui est connu sur l'histoire de Naaman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais raconter la première partie, et puis Werner va nous lire la deuxième partie de ce passage. On voit, il y a deux temps, c'est le Dieu d'Israël qui va vers Naaman, le lépreux, et dans un deuxième temps, c'est Gad, l'Israélite, qui va à la rencontre de Naaman, le Syrien. Alors, d'abord, l'histoire s'ouvre, Deux Rois 5, avec cet homme, Naaman. Il est le chef de l'armée des Syriens, et il est vraiment en haute estime par rapport au roi de Syrie. C'est grâce à lui qu'ils ont remporté beaucoup de victoires. Mais il y a un couac, c'est-à-dire que Naaman est lépreux. Alors, lors des incursions dans le pays d'Israël, un jour ils ont ramené une petite Israélite et il se fait qu'elle est embauchée par la femme de Naaman. Et puis, cette petite a le courage de dire à sa maîtresse, « Mais si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il serait guéri de sa lèpre. » Alors, ça passe par le téléphone arabe à Naaman et ça arrive jusqu'aux oreilles du roi de Syrie qui convoque son général et dit, mais on va arranger ça, je vais t'écrire un courrier pour le roi d'Israël, tu le prends, tu pars et voilà, ça va être réglé. Donc, voilà Naaman qui monte sur son char qui part avec ses chevaux et son escorte et se présente devant le palais du roi d'Israël. Qui prend ça très mal? Est-ce que j'ai le pouvoir de la vie et de la mort? Mais je vais vous dire une chose, cet homme me cherche querelle. Et parce que Israël n'est pas très fort en ce moment-là, en désespoir de cause, il déchire ses vêtements. Le bruit se répand jusqu'aux oreilles d'Élisée. Les vêtements du roi sont en lambeaux. Élisée envoie dire, mais envoie-le chez moi, et cet homme saura qu'il y a un prophète en Israël. Et voilà que Naaman remonte dans son char et s'arrête devant chez Élisée. Élisée dit à quelqu'un de son entourage, mais sors, dis-lui de se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman, avec tous ses accompagnateurs, attendait qu'on sorte vers lui. C'est un homme important. Qu'on invoque le Dieu d'Israël sur lui. Qu'on pose les mains sur les parties atteintes de la lèpre. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des fleuves en Syrie, à Damas, pour que je puisse me laver, pour être pur? Et il laisse les marques des pneus sur le goudron et part furieux. Heureusement, il y a des conseils de sagesse dans son entourage. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Combien plus tu devais faire la chose qu'il te demande. Naaman se laisse raisonner, il descend jusqu'au Jourdain et il se plonge 1, 2, 3, 7 fois dans le Jourdain et il s'en sort complètement purifié, sa chair comme la chair d'un jeune enfant. Notre général orgueilleux rebrousse chemin vers le prophète. Combien ça coûte? Parce qu'il était parti avec 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or, sans parler de garde-robe. Combien je peux te donner? Mais rien du tout, répond Élisée. Naaman insiste, Élisée refuse. Et Naaman dit, mais j'ai quand même une faveur à demander. Le roi de Syrie, de la Syrie, souffre de l'arthrite. Et quand il se met à genoux devant son Dieu, il doit s'appuyer sur mon bras, et donc je me prosterne aussi. Mais maintenant, je veux que adorer le Dieu d'Israël. Élisée lui dit, va en paix. Le Dieu d'Israël est allé à la rencontre de Naaman. Maintenant, Werner, on va écouter comment l'Israélite va à la rencontre de Naaman. C'est à partir du verset 20 de ce même chapitre que Werner nous lit.
Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Gehazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. Et Gehazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, d'où va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Gehazi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Choisi les prit de leurs mains et les disposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il allait se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Guazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements ?» Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guézi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.
Vous avez constaté, le chapitre commence avec Naaman et sa lèpre, et ça termine, Naaman le Syrien et sa lèpre, et ça termine avec Gaasi l'Israélite et sa lèpre. J'aimerais juste rappeler les temps qu'on vivait. Les temps qu'on vivait, c'est le premier chapitre de Deux Rois qui va nous dire que le roi Ahasia, il était malade parce que, pour une raison qu'on ignore, il est tombé de la fenêtre de son palais à Samarie. On peut imaginer qu'il a trop bu, mais on sait, la Bible ne donne pas la raison. En tout cas, il est sur son lit de malade. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est dit par trois fois, il envoie se renseigner auprès du roi, du dieu Beelzebul, s'il va se remettre ou non. Et par trois fois, ça va être dit, est-ce qu'il n'y a pas de dieu en Israël qui pourrait intervenir, guérir? C'est le temps que nous vivons ici. Le peuple d'Israël est loin de Dieu. Mais Dieu n'est pas loin de son peuple. Et dans sa souveraineté, il agit. Si vous regardez le premier verset de notre passage, c'est même dit que dans sa souveraineté, c'est Dieu qui donne la victoire à la Syrie sur Israël. C'est le monde à l'envers. Dieu est à l'œuvre pour attirer l'attention de son peuple. Et il est à l'œuvre, verset 2, en plaçant cette petite fille dans la maisonnée de Naaman. Et il est à l'œuvre avec bonté, avec grâce, et ça va fâcher le peuple de Dieu. Ils n'aiment pas ça, que Dieu ait pitié de ce frontalier. C'est un homme qui arrive comme ça, avec tout ce qui l'accompagnait, a piétiné le gazon des voisins devant chez Élisée. Vous imaginez, si ça arrivait chez vous, toute une délégation du Moyen-Orient devant la porte. Qu'est-ce que les gens disent? Et voilà que le serviteur de l'Éternel ne daigne pas sortir. Le cadeau, c'est pas de l'homme de Dieu. Le cadeau, c'est de Dieu. Et Naaman va être transformé dans son orgueil et dans sa lettre intérieure, comme nous avons entendu dans le temps de prière, pour devenir un tout autre homme. L'homme, le général orgueilleux, va par la suite s'adresser à Élisée comme ton serviteur. À plusieurs reprises, il a une nouvelle attitude. Il a surtout une nouvelle théologie. Je reconnais, verset 15, qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Si seulement les Israélites étaient d'accord. Il a décidé d'avoir un nouveau comportement. Verset 17, « Je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Cet étranger a tout compris et il est là comme exemple au milieu de ce peuple qui n'a plus rien compris. Et il est devenu un homme avec une autre sensibilité. Eux, les Israélites, courent pour se faire guérir auprès d'autres dieux. Et lui, il dit, je veux me prosterner devant aucun autre dieu que le Dieu d'Israël. Et il concrétise cette nouvelle appartenance dans une nouvelle famille en voulant tout donner. Et ce qui fâche dans la grâce, c'est que Dieu donne gratuitement même à des Syriens. En tout cas, ça va profondément contrarier Gad. Motivé par la compassion, le Dieu d'Israël va à la rencontre de Naaman. Maintenant, motivé par la convoitise, Gad va à sa rencontre. Gad, bon Israélite, constatait l'ascendance de la Syrie, il n'aimait pas les Syriens. Verset 20. Mon maître a voulu ménager avec mépris ce Syrien. Il ne les aimait pas. Et il a pu s'en tirer même sans frais. Être au service du prophète de l'Éternel en Israël, ça ne le satisfaisait plus. Et la transformation de ce lépreux le laissait devenir ou pire. Maintenant, il faut en tirer profit. Donc, conduit par la convoitise, il rattrape Naaman sans difficulté, parce que ça fait avancer très vite. Et il enfreigne non pas le code de la route, mais un autre code. Vous avez remarqué, l'Éternel est vivant, verset 20. Il prend le nom de l'Éternel en vain. Il apporte, neuvième commandement, un faux témoignage. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas. Verset 20, j'obtiendrai certainement quelque chose de tout cet argent, de tout cet or, de tous ces biens. Donc, notre serviteur en cours de liquidité découvre que c'est l'occasion en or pour un nouveau plan de financement. Et voilà qui se présente devant Naaman avec son histoire inventée. Tu veux un talent? Prends-en deux. Faut dire qu'un talent, semble-t-il d'argent, était bon pour 300 ans de retraite. Élisée, mais Naaman va dire, prends-en deux. Et voilà que ça marche à merveille à tous ceux qui sont en train de porter ces 700 kilos d'argent. Il dit, mais maintenant, c'est bon, je vais faire le nécessaire pour caser ça chez moi. Vous pouvez retourner. Et en se présentant devant son maître, tout comme le problème évident de Naaman était couvert, le problème caché de Gehazi est découvert. La grâce est troquée contre tout ce qui brille. On avait le païen converti et l'israélite perverti. Et c'est dit au verset 25, de ses propres mots, Gehazi dit, ton serviteur n'est allé nulle part. Version Semain. Un Israélite qui va nulle part. Alors, j'aimerais maintenant juste qu'on s'interroge pourquoi la sentence du roi est si sévère. Parce que c'est pas rien ce qui lui arrive. Pourquoi la sentence du roi est si sévère? C'est les paroles de Daniel devant le roi Nebuchadnezzar. Gehazi ne tient en rien les privilèges d'appartenir au peuple de Dieu. Ils ont reçu les révélations, la parole. Il est au service du prophète. Il a même vu une résurrection. Et il s'ennuie. Il regarde vers ce dont jouissent les autres. Tout c'est bien. Quel est le message? Aux malades, lépreux, qui reconnaissent leurs besoins, le Seigneur offre de les rendre complètement purs. C'est ce que dit notre texte. Même des Syriens. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Même les ennemis du peuple de Dieu pouvaient être au bénéfice de sa bienveillance. Mais, aux soi-disant bien portants, qui n'ont pas besoin de médecins, en tout cas en apparence, le Seigneur permet que leurs vrais besoins viennent à jour. Même des Israélites. Il semble que l'invitation de ce texte c'est de traverser nos frontières pour que nos vrais besoins sortent. Le psaume que Werner nous a lu parlait d'un Dieu redoutable. Et l'avertissement de notre texte est qu'on ne se moque pas du Dieu de la grâce. il y a une leçon. Oui, la grâce est merveilleuse pour des Naamans, mais pour des Gehazi, la grâce est effectivement redoutable. La leçon d'hier, pour l'époque, c'était il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre, c'est les paroles de Naaman et Élisée et son prophète. Le peuple de Dieu l'avait perdu de vue. Il regardait ailleurs pour leur réponse et leur solution. Et sa parole n'avait plus de teneur pour eux. Dieu est allé à la rencontre des lépreux avec grande compassion. Du temps de Jésus, du temps d'Élisée. Comment on réagit? Partir en rage, comme notre général, ou à un moment donné, se plier à l'évidence de notre besoin pour pouvoir repartir en paix. C'est l'exemple du Syrien converti. Ou on peut persévérer dans notre façade, notre fraude. C'est l'exemple de l'Israélite perverti. Bien portant qu'en apparence. C'est Naaman, l'Israélite, et Gehazi, le Syrien, finalement. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël du temps d'Élisée, mais il n'était envoyé vers aucun d'entre eux. Mais c'était vers Naaman qui devait aller. Est-ce qu'il n'y a pas des attitudes qu'on doit revoir au sein du peuple de Dieu? Des choses, des inconséquences qui sont là, qui laissent perplexe notre entourage, qui ont des conséquences, étaient pour lui et sa descendance. L'invitation, il me semble, c'est de noyer nos résistances, convoitises ou autres, en se plongeant tout à nouveau dans la grâce de Dieu. Pour se rappeler qu'on a été complètement purifié. Pourquoi loucher ailleurs quand on a tout reçu pleinement dans le Seigneur? Ça suscite une dette que nulle somme d'argent ne peut satisfaire. Il faut qu'on résiste le Gehazi qui nous guette et qu'on reste les Naaman que nous sommes. Purifiés une fois pour toutes, libres, en chemin, dans la paix. Pourquoi regarder